VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, Média Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Sénégal, l'un des principaux chefs de la rébellion Casamance, Salif Sadio, a averti que les opérations lancées par l'armée sénégalaise depuis le massacre de 14 forestiers pourraient remettre en cause la trêve, voire le processus de paix dans cette région du sud du pays. Salif Sadio, 64 ans, s'est exprimé dans un entretien avec l'AFP et une radio locale réalisée mardi dans une forêt proche de la frontière gambienne. Après des années d'accalmie, la Casamance a connu un regain de violence le 6 janvier à la suite du massacre par des hommes armés et de sang-froid de 14 jeunes gens partis chercher du bois dans la forêt protégée de Bayotte, proche de Ziguinchor, principale ville de la région. Niger, deux gendarmes nigériens ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans une attaque dans la zone de Saï, région de Tillabéri dans le sud-ouest du pays, selon des médias locaux. Ces sources ne précisent pas s'il s'agit d'attaques djihadistes ou de bandits armés. Aucune attaque djihadiste n'a pour l'heure été enregistrée dans la zone de Saï, où pullulent surtout des bandes armées aux coupeurs de route, parfois venus du Burkina voisin, qui rançonnent des riches commerçants. Les attaques djihadistes sont concentrées plus au nord, dans le Liptako-Gourma, à cheval entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le 4 octobre, 4 soldats américains et 4 militaires nigériens ont été tués dans une embuscade dans cette même région. Niger, toujours, le procès d'une dizaine de militaires et d'un civil continue dans le pays. Les prévenus sont accusés de complot contre la sûreté de l'État visant à renverser le régime nigérien en 2015. Et leur jugement a commencé mardi devant un tribunal militaire à Niamey. John Lyndon.
Une partie des avocats des prévenus a quitté la salle en guise de protestation de n'avoir pu voir un certain nombre de leurs requêtes exaucées. Mais les débats ont continué et devraient se poursuivre jusqu'au verdict en fin de semaine, indique une source proche du dossier. Dès l'ouverture de l'audience, la dizaine d'avocats de la défense a demandé et obtenu la récusation d'un des juges militaires et ex-chef d'état-major particulier du président nigérien Mahamadou Issoufou. Les avocats ont vainement tenté d'obtenir un ajournement du procès en attendant que la Cour constitutionnelle statue sur des exceptions qu'ils ont soulevées. Ils ont également demandé le témoignage sous serment de nombreuses personnalités, dont le chef d'état-major des armées au moment des faits, le chef d'état-major particulier du chef de l'État, son directeur de cabinet et le patron du contre-espionnage. Le 17 décembre 2005, le président Issoufou, qui briguait un second mandat, avait affirmé qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée. À l'époque des arrestations, l'opposition politique s'était montrée sceptique quant à la réalité de la tentative de ce coup.
En Côte d'Ivoire, c'est probablement en avril prochain qu'auront lieu les élections régionales, municipales et sénatoriales. Plusieurs formations politiques menacent de boycotter ces scrutins si la commission électorale indépendante n'est pas réformée. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tonkara, fait le point.
L'opposition ivoirienne se dit d'abord surprise par l'annonce de ces élections, une annonce faite par le chef de l'État lors de son traditionnel message de nouvel an à la nation. Danielle Bonny-Claveri, présidente de l'URD, l'Union pour la République et la Démocratie.
Je dois vous dire que nous avons été très surpris parce que le président a toujours affirmé que ces élections locales et sénatoriales auraient lieu après la présidentielle de 2020. On nous met devant une espèce de fait accompli en nous disant que elle pourrait même avoir lieu en avril 2018. Et je dois vous dire que cette hâte, cette précipitation suscite en nous beaucoup de doutes et énormément de suspicions.
Il n'y a pas que la date de ces élections qui pose un problème. Il y a aussi et surtout la composition de l'organe chargé de la conduite du processus électoral, la Commission électorale indépendante. Danielle Bonny-Claveri.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande, exige de la Côte d'Ivoire la prise en compte des décisions judiciaires internationales qui font savoir à la Côte d'Ivoire que cette institution n'est pas neutre, que cette institution est désirée déséquilibrée au profit du régime et qu'il faut à tout prix la réformer profondément.
Même tonalité chez Ouattara Nyonzié, président du RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage.
Cette commission n'est pas indépendante comme on le dit. Vous avez dans cette commission les partis politiques, la coalition au pouvoir est représentée, les partis d'opposition sont représentés, mais vous avez dans cette commission le président de la République est représenté, le gouvernement est représenté, les présidents d'institutions sont représentés. Ça, c'est une surreprésentation. Donc, elle n'est plus indépendante et puis elle est déséquilibrée.
En novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, saisie par une ONG ivoirienne, avait déclaré que la composition de la CEI viole le droit à l'égalité de tous devant la loi, ainsi que le droit d'avoir un organe électoral national indépendant et impartial. La Cour avait demandé à l'État ivoirien de rendre conforme sa loi électorale aux instruments internationaux, dont la Charte africaine sur les élections. Une dizaine d'organisations de la société civile viennent d'ailleurs de demander à l'État de se soumettre à cet arrêt. Bamba Sindou, coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, la POSI.
Partant de l'arrêt de la Cour et des missions d'observation, les observations constatées par les organisations de la société civile sur le terrain, dont nous avons décidé de faire une proposition de réforme du cadre légal, c'est-à-dire qu'au niveau du code électoral et également au niveau de l'institution en charge des élections en Côte d'Ivoire qui devait permettre et faciliter l'acceptation de cette commission par l'ensemble des acteurs politiques.
Nos tentatives pour avoir la coalition au pouvoir sont restées infructueuses. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Violence en RDC, le pape François a lancé aujourd'hui un nouvel appel au calme dans le pays après la répression sanglante de marche contre le président Joseph Kabila, organisée à l'initiative de catholiques qui restent mobilisés. L'ONU et les pays occidentaux ont dû aussi le ton mardi envers Kinshasa après la répression meurtrière de ces marches, tandis que Monseigneur Laurent Monsengwo a demandé aux Congolais de rester mobilisés et même inébranlables. Yakuba Ouedraogo fait le point.
Après avoir fait état de 6 morts dans les violences à Kinshasa, les Nations Unies enquêtent toujours sur plusieurs autres possibles victimes des forces de sécurité. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme a affirmé que la police militaire a tiré des gaz lacrymogènes vers au moins 3 patrouilles onusiennes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne soutiennent que l'usage d'une force disproportionnée et la coupure des services Internet et SMS violent les assurances qu'ils avaient reçues de la présidence congolaise. Ces condamnations interviennent pendant qu'une mission conjointe américaine, britannique et française se trouve en RDC pour préparer une nouvelle résolution des Nations Unies d'ici au mois de mars. Cette résolution va déterminer le nouveau mandat de la MONUSCO. Le comité laïque de coordination a demandé à ses fidèles de rester mobilisés pour répondre à son prochain appel. Restons inébranlables, a lancé l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo, avant de s'interroger. Sommes-nous devenus une prison à ciel ouvert?
Le président américain Donald Trump rencontrera en fin de semaine à Davos en Suisse le président rwandais Paul Kagame ainsi que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. C'est ce qu'annonce la Maison-Blanche. Le président Trump doit prononcer vendredi un discours à l'occasion du Forum économique mondial à Davos et il rencontrera également la première ministre britannique Theresa May. Proche-Orient, l'armée turque et ses alliés arabes syriens mènent depuis hier une offensive dans le nord de la Syrie contre une milice kurde qui a exhorté la population à prendre les armes. Plus de détails avec Morgan Guiriek.
Selon Rami Abdel Rahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, de violents combats ont eu lieu hier dans la région d'Afrin, bastion des unités de protection du peuple, une milice kurde. Jim Mattis, patron du Pentagone, appelle Ankara à faire preuve de retenue. Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, a rencontré hier à Paris Rex Tillerson, son homologue américain. Le président Donald Trump doit aussi s'entretenir au téléphone aujourd'hui avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Depuis samedi, plus de 80 combattants kurdes et des groupes rebelles syriens pro-Ankara ont été tués. Les combattants kurdes font partie d'une alliance soutenue par Washington dans la lutte contre le groupe État islamique. Ankara les accuse d'être la branche en Syrie du parti des travailleurs du Kurdistan, qu'elle considère comme un groupe terroriste.
Et pour terminer, en Afghanistan, moins 2 personnes, dont un soldat, ont été tuées dans une attaque semée en cause contre le siège de l'ONG britannique Save the Children à Jalalabad, chef-lieu d'une province de l'est de l'Afghanistan. 14 personnes ont également été blessées, selon le porte-parole du gouverneur provincial. Mais ce bilan pourrait évoluer alors que les opérations continuent contre les assaillants. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.